dissonance.
Aujourd'hui, histoire de voir les choses autrement, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique.
Il traverse la cour de récréation qui est vide à cette heure-ci. Les élèves sont dans leur classe. Ils l'attendent. Il a une allure digne, il marche d'un pas assuré, sa stature est droite. Il frappe à la porte. Un élève lui ouvre.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et la voix de Pépa s'élève d'abord. Puis c'est le cœur des enfants qui poursuit, et leur voix à tous se mêle pour créer une belle harmonie de pensées, d'images, et comme vous allez pouvoir l'entendre et en juger vous-même, de sons. C'était la surprise qu'il voulait offrir à Monsieur Maurice Cass.
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tu évites. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Aide à nos trous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il faut quand il passe.
Amis,
tombe un ami, sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons dans la nuit de liberté nous écoutent.
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Maurice Cass est décédé il y a tout juste un mois, à l'âge de 90 ans. Nous avions eu la chance de le rencontrer pour la première fois il y a 3 ans. Il avait la stature et l'allure d'un homme britannique travaillant à la City. Il ne lui manquait que le chapeau melon. Et qui pouvait penser en le croisant qu'il faisait partie de ces jeunes qui, il y a 70 ans, avaient décidé de reprendre les armes pour combattre le nazisme et défendre la liberté. Maurice Cass parcourait les établissements scolaires de l'Aveyron pour expliquer la démarche de ces jeunes d'hier aux jeunes d'aujourd'hui, lors de causeries organisées dans le cadre de l'Association nationale des anciens commandants de la Résistance, l'ANACRE de l'Aveyron. Il était étonnant à plusieurs titres, conquis par l'appel de De Gaulle, avait combattu dans un maquis FTP auprès de François Victory, communiste convaincu. Et depuis, il ne cessait d'expliquer qu'il fallait s'unir et qu'il faut s'unir contre le fascisme ou toute autre forme d'intégrisme dévastateur, et que quand le dénominateur commun est le combat pour la liberté, il faut faire fi de nos différences. Aujourd'hui, avec Maurice Cass, il sera question de résistance, de maquis FTPF, franc-tireur partisan français. Se joindront à ses paroles François Testas, qui a combattu aux côtés de Maurice Cass dans le maquis d'Ols. Et nous laisserons Sylvain Diette conclure par de très beaux mots cette émission dédiée à Maurice Cass. Il faisait partie, François, Maurice, Sylvain, de ces hommes et de ces femmes, gaullistes, communistes, anarchistes, français ou étrangers, qui au sein des maquis ou des groupements guerrilleros ont combattu pour la liberté.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai perdu mes amis, j'ai changé de pays pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour. Le sabel joyeux.
Maurice Cass est un jeune Parisien de 13 ans lorsque la guerre éclate. Réfugié en zone sud suite à l'exode, il passe les premières années de guerre dans la Creuse, près de la Souterraine. Il est logé chez un fermier qu'il emploie aux travaux agricoles. L'homme écoute régulièrement la BBC et Maurice est naturellement un partisan du général de Gaulle quand il rejoint sa tante dans l'Aveyron en juillet 1943.
J'avais 13 ans et je suis à Paris lorsqu'Adolf Hitler déclare la guerre à la France en 1939. J'ai assisté à la mobilisation des hommes et participé à l'exode des populations civiles fuyant vers le sud pour échapper à l'avance de l'armée allemande. En 1940, le 22 juin, il y a une mise en place de la ligne de démarcation qui coupe la France en deux. Au nord, la France occupée avec les Allemands à Paris, et au sud, le gouvernement de Vichy. Alors il faut que vous sachiez qu'à ce moment-là, moi, j'étais un enfant comme vous. J'avais envie de jouer, j'avais envie de chanter, et que subitement, je me suis aperçu que c'était difficile de continuer à chanter. Parce que on n'avait plus la même nourriture, on ne touchait plus les mêmes choses. Alors, ceci pour vous, je vais continuer, mais il faut que vous sachiez qu'à ce moment-là, moi, j'étais un enfant comme vous. Alors vous comprendrez aisément l'engagement des l'amertume des Français qui vivent au quotidien ces moments difficiles, parce que c'était pour tout le monde pareil. Lorsqu'à la radio de Londres, ils entendent parler le général de Gaulle, c'est une lueur d'espoir patriotique qui prend naissance avec le message suivant. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Personnellement, à ce moment-là, j'avais 13 ans. Ces paroles, elles ont ouvert en moi un esprit de révolte, d'injustice à l'égard des agresseurs qui portaient atteinte à notre liberté. Je me suis rendu compte qu'on était en train d'attenter à notre liberté, et j'ai trouvé que c'était une injustice. Je me suis senti révolté. Voilà ce que j'ai ressenti, moi. Alors très vite, là, en janvier 1941,
Les rapports Pétain-Hitler se gâtent. Les Français manquent cruellement de charbon pour se chauffer. Ils subissent le rationnement des marchandises et surtout de l'alimentation, qui nécessite 2500 calories par jour en moyenne pour un être humain. On en recevra que 1200, c'est-à-dire la moitié, en 1942, et 850 début 1944. Ce qui veut dire qu'en 1944, on touchait des tickets d'alimentation, avec une part, il fallait nourrir trois personnes. Voilà. Supposez, vous êtes trois enfants, et au lieu d'avoir chacun votre part, vous êtes obligé de prendre un tiers chacun. Alors, vous comprendrez que peut-être, on a beau ne pas être violent, on le devient quand on est comme ça. Parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi qu'on m'empêche de manger? Pourquoi? Hein? Et puis, ce n'est pas tout. Alors, il y a aussi quelque chose de grave. En 1939, il y a une loi qui interdit le Parti communiste et la CGT. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de penser. On n'a plus le droit de penser autrement que le gouvernement de Vichy. Si vous pensez autrement, c'est la prison. Cette loi, elle est renforcée quelques mois plus tard par une nouvelle loi qui interdit toute activité politique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le Parti communiste, c'est toutes les idées politiques sont interdites. Il n'y a que celle du gouvernement de Vichy qui est autorisée. Et la meilleure des preuves, c'est que comme il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent penser quand même comme ils en ont envie, c'est qu'il y a 48 otages en majorité communiste qui sont fusillés à Nantes en 1941. Il y en aura 204 en 1942. Alors vous comprendrez que les esprits s'échauffent. Je vais avoir 16 ans lorsque le général de Gaulle fait une nouvelle déclaration à la radio de Londres. La libération nationale est inséparable de l'insurrection nationale. Ça voulait dire, je vous complète, que pour libérer la France, il faudrait que le peuple se soulève.
Quand on aura fini de construire le monde, j'espère qu'il restera encore quelques secondes. Quand on aura fini de saccager la terre, j'espère qu'il restera ce rayon de lumière. Ces secondes, on les prend, c'est pas toi qui les comptes. Ça finit dans le vent, qui descend, qui remonte. Et c'est ça qui nous tue, c'est pour ça qu'on est nus. Jusqu'à perte de vue, on traverse la rue. Quand on aura fini de se battre entre nous, j'espère qu'il restera un morceau de nos joues. Quand on aura fini de se ronger les sangs, j'espère qu'il restera un après, un avant. Ces regards, on les prend, c'est des coups de couteau. C'est la main qui se tend, c'est pourquoi l'on est beau. Au bout de l'avenue, on s'est pas retenu. Jusqu'à perte de vue, on traverse la rue. Je vais bien, tu sais. 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 Je vais. Quand on aura fini de laver notre linge, j'espère qu'il restera des chevaux et des singes. Quand on aura fini de se croire tout permis, j'espère qu'il restera ce pourquoi on se l'est dit. Ces paroles, je les prends, jusqu'à coûte que croûte, on va foncer dedans, jusqu'à sortie de route, et dans les résidus, juste après le talus, jusqu'à perte de vue, on traverse la rue. Quand on aura fini de refaire le monde, j'espère qu'il restera encore quelques secondes. Quand on aura fini de plus croire en la vie, c'est qu'il nous restera quelque part une envie. Ces sourires, je les prends, c'est pas toi qui les donne, jusqu'à la nuit des temps. C'est nos cœurs qui résonnent, comme j'avais jamais vu le bout de l'avenue, jusqu'à perte de vue, je traverse la rue. Je vais bien, tu sais,
tu sais, je vais bien, tu sais, je vais bien, tu sais, je vais.
Maurice Casse est un Aveyron, au Gat, dans le bassin Houillé. Il réside chez sa tante qui tient le Café du Peuple où se réunissent les résistants locaux. Parmi eux, le pharmacien Martial Plaine-Cassagne.
J'ai quitté Paris pour l'Aveyron, où je me lie d'amitié, écoutez bien celle-là, avec Martial Plaine-Cassagne, le pharmacien du Gat. Très vite, je comprends qu'il a des rapports avec la résistance. Et début 1944, je lui fais part de mon intention de rejoindre le maquis. J'avais envie. J'étais, vous voyez, à 16 ans, je voulais participer à chasser l'ennemi. Je lui fais part de mon intention. Alors, sa réponse sera la suivante. Je m'en rappelle, oui. Compte tenu que tu n'es pas dans l'illégalité. Parce que je n'étais pas dans l'illégalité, j'avais le droit de sortir comme je voulais. Tu as le temps. Ceux qui y sont commencent à trouver le temps long et l'insécurité est grande. Alors continue à dormir au chaud dans ton lit pour l'instant. Le moment venu, je te le dirai. Alors là, je pense que vous comprenez bien, il calme mon ardeur et il me dit, même si tu t'en vas au maquis, on ne fera pas grand-chose de toi en ce moment. Donc je reste à la maison. Seulement, 2 mois plus tard, le 15 mars 1944, il est arrêté à son domicile, transféré à Rodez, où il mourra de ses blessures le 22 mars à 44 ans. Alors là, voyez-vous, j'ai un chagrin fou. Ma révolte est immense. On a tué mon ami.
L'arrestation et la mort sous la torture de ce dernier précipitera l'entrée en résistance de Maurice Casse.
Les ennemis étaient chez moi. Ils m'ont dit résigne-toi. Mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage, j'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi et je tourne en rond. Sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Nous rentrerons dans l'ombre. La 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 la.
Dissonance avec Maurice Casse sur Radio Sainte-Afrique.
Ce drame sera l'acte final de mon attente. Je n'ai plus qu'une idée. Partir au maquis, participer à l'affaiblissement de l'occupant. J'ai envie de les harceler pour retrouver notre liberté. Alors, fin mars, début avril 1944, voilà dans quelle atmosphère je vivais. Vous voyez,
1944, j'avais donc à ce moment-là 18 ans. Alors, vous voyez, entre mes 13 ans et mes 18 ans, vous voyez ce qui s'est passé. Dans ma tête, ça chauffait. Parce que, vous vous rendez compte, toutes les injustices, tout ce que j'avais pu voir. Depuis 15 jours, Martial est mort, mon ami. Je suis désemparé, je ne sais plus quoi faire. Mais le 14 avril 1944, la chance me sourit. Une voiture est arrêtée au milieu de la rue, et sur ses portes, je lis FTPF. Mon sang ne fait qu'un tour. Je m'approche. Et après avoir écarté quelques badauds, j'interpelle le sous-officier qui est au volant. Après quelques renseignements sur mon âge et ma détermination, il accepte de me prendre dans 20 minutes. Il me donne 20 minutes, si je le veux. Immédiatement, je pars prévenir ma famille, qui est abasourdie, inquiète. Vous vous rendez compte? Je m'en vais au maquis. Mais rien ne compte. Maintenant, je suis déjà un combattant pour la liberté des hommes. Il n'y a plus que ça qui compte. Le soir, je couche dans un abri de berger avec quelques autres jeunes dans les environs d'Ambérac. J'ai de la paille en guise de lit et un bol de soupe pour le dîner. Et j'apprends que je suis au maquisole. Parler si j'étais content, placé sous les ordres du commandant Marc. Le lendemain matin, le sergent me donne une paire de bleus de travail et un béret noir. Je suis devenu ce qu'on appelait un diable bleu. Les Allemands nous appelaient les diables bleus.
L'amour que y a l'argouette Ausis los frites qui pujan de l'ombre Et pour l'espace non pas escouta Cagon de l'eau la caro du monde Et pour l'espace cara Turistaio cune și plalu pres du sau nei Dar sun argent lor di che fizio Trop rui che lusure Indi io che mari tu miei omni Se de lauset o segi lu cant Cau pagara libertà du poble Dab lacrimos de sang No a la muerte No a la muerte Si t'appeggia una dittatura Ser così un arbo de libertà Ken sa vien chi ha densi suero Lucaso de Guernica Si cauche passis per la Desliura di Machanma Che saura sun se trovò l'Espagno Aura su Portugal No a la muerte No a la muerte No a la muerte
Maurice Casse intègre le maquis d'Ols. Il prend le nom de Humbert et sera un compagnon de lutte de François Testas que nous écoutons évoquer ce maquis.
C'est là, que j'ai connu petit Louis qui était Vittori François. Ils avaient fait une école des cadres à Camboulan. C'était l'école de la 3e subdivision. Et ici, on apprenait la guérilla. Et puis on faisait signer aux gens qui voulaient venir un code d'honneur. S'ils ne voulaient pas se battre, ils ne signaient pas le code d'honneur et ils refoutaient le camp chez eux. Les francs-tireurs, ils allaient là pour se battre, apprendre la guérilla et appliquer toutes les ce qu'on nous apprenait. Alors là, j'ai vu Marc. Enfin, Marc, oui. Petit Louis. Et voilà. Et j'y suis resté. Les FFTP n'avaient pas d'officier. Le mot officier n'existait pas. Et il n'y avait pas de chef. Le mot chef n'existait pas. Il n'y avait pas de garde à vous, pas de salut militaire, pas de grimade, de brimade. Maintenant, comme il fallait quand même organiser un commandement, parfois c'était les hommes qui disaient, toi, on te verrait bien, CE. Bon, CE, à la tête de chaque unité, il y avait un CM militaire, un CE qui s'occupait des hommes, de leur bien-être, de leur mal-être, de tout. Il s'occupait que des hommes. Et c'était un rôle très important. Et il y avait un CT, technique. Alors lui, il s'occupait de ravitaillement, de tout ce qui est technique, les armes, tout ça. Voilà, ceci dit, ayant dit que ces hommes étaient tous des volontaires qui voulaient se battre, tout devenait facile, parce que ça permettait de partir en opération avec n'importe lequel, le premier venu, il était volontaire, et sans hésiter et gonflé.
Maurice Casse va ainsi rencontrer et connaître François Vittori, alias le commandant Marc, au sein du maquis qu'il avait fondé, un maquis FTPF, le maquis d'Ols. C'était un communiste, un personnage emblématique de la résistance en Aveyron, poursuivi par la Gestapo, pourchassé par la milice. C'était un ancien des brigades internationales qui avait combattu le fascisme en Espagne. Maurice Casse gardera une profonde admiration et une réelle amitié pour son ami François Vittori, décédé il y a 20 ans.
Alors moi je vais vous parler de celui que je connais.
Dissonance avec Maurice Casse sur Radio Sainte-Afrique.
Je vais vous parler du maquis d'Ols. Dans un tableau d'effectifs de la 5e région militaire, on déclare chef de la formation Vittori François, dit Marc. En janvier 1944, c'est un maquis qui s'est ouvert avec 20 personnes, maximum, mais plutôt fin janvier, début février En juin 1944, alors à ce moment-là, on avait appelé ça le camp Dominique Vincetti. Camp Dominique Vincetti, c'était le nom d'un Corse que le commandant Marc avait connu. Et il voulait lui donner le nom de son maquis. Mais en juin 1944, il a fallu qu'on appelle ça les maquis du Rouergue. Et à ce moment-là, les effectifs étaient montés à 1970 personnes. 1970 personnes. Et en juillet 1944, ça s'appelait le 1er bataillon de l'Aveyron, il y avait 2800 personnes. Autrement dit, je crois pouvoir vous dire, sans me tromper, le commandant Marc a créé, il a développé, il a formé des gens pour faire le plus grand maquis de l'Aveyron. Je donne mes coordonnées des exercices de formation, commence avec les autres. Nettoyage des armes, elles étaient très rares les armes. Maniement et utilisation, consignes à respecter pour la sécurité, parce que ça c'était important. Tour de garde et les jours passent. Vers la fin mai, notre petit groupe reçoit un peu avant minuit la visite du commandant Marc, accompagné de notre sergent et d'un officier écossais. Nous apprendrons que c'est un responsable des parachutages anglais d'armes et de munitions. Il est surpris de la faiblesse de notre armement et promet qu'il va faire le nécessaire pour y remédier. Le commandant Marc lui fait remarquer que des promesses lui ont été faites précédemment sans suite. Mais cette fois, c'est la bonne. On a touché le jackpot. On a eu le parachutage. Tout le monde est content, prêt à des actions plus importantes de sabotage, de harcèlement de l'ennemi et des traîtres. À une diffusion plus importante de notre journal clandestin Le Libérateur. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi, le commandant Marc avait créé un journal pour le bataillon qu'on appelait Le Libérateur. Et ce journal était distribué clandestinement. À partir de ce jour, il sort à plusieurs milliers d'exemplaires. Autrement dit, ça devenait une action importante. Les jeunes arrivent maintenant beaucoup plus nombreux, des camps sont formés et une école de cadres voit le jour avec le commandement du lieutenant Testas, sous les ordres duquel je resterai jusqu'au 2 avril 1945. Le commandant Marc déploie une grande activité face à l'augmentation des effectifs qu'il doit former, en faire des hommes qui vont œuvrer pour l'avenir. Vous voyez la résistance à quoi ça menait. Il fallait œuvrer pour l'avenir. Il ne s'agit pas que de se défendre. Il faut voir plus loin. Il milite pour la majorité des jeunes à 18 ans, le vote des femmes et la mise en place du programme du CNR élaboré le 27 mars 43 rue du Four à Paris. Alors le CNR, c'est le Comité National de la Résistance. Le général de Gaulle avait demandé qu'on forme ce comité et il avait mis à la tête un homme qui s'appelait Jean Moulin. À l'occasion du 14 juillet 1944, un débrayage est prévu pour les mineurs de Carmaux, Blaye-les-Mines, Cagnac, dans le Tarn. Nous recevons des ordres, nous, à Holz, pour appuyer leur mouvement par une action armée en vue de l'insurrection nationale. Alors vous voyez, on retrouve les mêmes mots. C'était ça, que les mineurs se soulèvent pour libérer l'Aveyron. Autre chose de plus importante, je vous demande beaucoup d'attention. Le 24 juillet 1944, au carrefour de Gelles, nouvel engagement des forces du Maquis d'Olst avec des renforts allemands importants, qui tente de rejoindre la Normandie, où le débarquement des forces alliées a eu lieu depuis quelques semaines. Et Paris n'est pas encore libéré. Les Allemands sont à Paris. Les maquisards se trouvent aux prises avec des blindés. Il y a une colonne allemande qui monte, et il y a des maquisards avec des fusils mitrailleurs qui se mettent à tirer sur les camions. Des Allemands qui en descendent, avec des fusils, des armements, et qui se défendent évidemment. Ils luttent courageusement et feront le sacrifice de leur vie pour retarder le plus longtemps possible cette colonne tant attendue par les forces allemandes en difficulté devant les troupes alliées. Vous voyez bien d'ici, c'est-à-dire que si on gardait on arrivait à retarder une colonne comme celle-là, un quart d'heure, une demi-heure, une heure de plus, elle arriverait peut-être à destination une heure trop tard, ou cinq minutes trop tard, comprenez-vous, pour aider les leurs. «
C'est un trou de verdure au champ d'une rivière. Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fier, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la lune, pâle sur son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les gaïeules, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frictionner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Le 6 et le 7 septembre 1944, en gare de Rodez, partirent pour le front de l'Est 600 volontaires, vous m'entendez bien, des volontaires, c'est-à-dire des maquisards, regroupés par le commandant Marc dans une unité qui portera le nom de 1er bataillon de l'Aveyron. Après quelques semaines, cantonné à Saint-Apollinaire près de Dijon, il sera placé en première ligne sur les flancs du Rhinkopf. Le Rhinkopf, vous ne connaissez peut-être pas. C'est une montagne dans les Vosges. C'est une montagne française. Mais à cette époque-là, à l'époque où on y a été, il y avait 2 mètres de neige. 2 mètres de neige. Moi, je ne voyais pas le haut quand on faisait une tranchée. Et on va y rester pendant 4 longs mois d'hiver tous les jours. Alors le 31 mars 1945, notre bataillon est en place, en dessous d'un petit pays qui s'appelle Spire, sur les bords du Rhin, côté français. Et on attend, et la nuit arrive. Et le 1er avril, le lendemain, nous avions traversé le Rhin. Le Rhin, vous savez, il est large. Quand on le traverse en canot, et quand vous avez des gens qui vous tirent dessus, je vous assure que le temps est long. Les minutes, les secondes, elles paraissent des minutes et des heures. Hein. Alors, nous étions donc en Allemagne le 1er avril, et 24 jours plus tard, à la frontière autrichienne, et c'est le 8 mai 45 que nous apprendrons la fin des hostilités par la capitulation de l'armée allemande, la barbarie nazie écrasée. Ce mois d'avril nous aura coûté cher en vie humaine et en blessés. Ainsi, alors là j'arrive à la conclusion, ainsi 5 ans plus tard, la révolte de mes 14 ans avait fait place à une sérénité, à un sentiment de devoir accompli. Terni par la tristesse et la douleur due à la perte de nombreux camarades de combat, de mon ami Martial et d'autres. Mais l'avenir me paraissait dégagé. J'avais 19 ans. J'envisageais de former un foyer, une famille, de travailler dans ma Paris retrouvée.
Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, c'est deux voleurs qui cachent leur bonheur. Puis nous arriverons sur sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquilles à loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
Dissonance avec Maurice Casse sur Radio Centrafrique.
Et c'est maintenant que nous arrivons à l'actualité. Des hommes clairvoyants ont pris leur place. Ils ont œuvré avec les dirigeants français à créer un climat de confiance, d'amitié entre la France et l'Allemagne d'aujourd'hui. Le résultat est magnifique. Plus de 65 ans écoulés sans guerre entre nos deux pays. Et l'espoir que cela durera longtemps. Mais ça, ça dépendra de vous. C'est vous qui allez prendre la succession. C'est vous qui obtiendrez qu'on reste en paix ou qu'on reste en guerre. Aujourd'hui, j'aurai 87 ans dans un bon mois. Qu'est-ce qu'il est vieux, hein ? Ce résultat conforte mon engagement de mes 16 ans. Il contribue grandement à excuser la peine et l'inquiétude que j'ai pu causer dans ma famille. Au terme de cet entretien, je pense que Madame Auger, la digne fille du commandant Marc, sera d'accord pour m'accompagner dans les remerciements que je vous adresse. En raison de votre attention et de l'intérêt qui a été le vôtre, je vous remercie tous.
Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Un nouveau cancer qui nous ronge, ou qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise, et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient, paye des pinottes pour le produit et comme ils sont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. Qu'on nous mette en les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'il y en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le but du problème. Hey! Il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde. On repensera au genre humain qui, à cause de la peau du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes.
C'était une émission spéciale de Dissonance dédiée à Maurice Casse. Un homme, comme il attestait par sa présence il y a tout juste un an à la cérémonie du Bouscalou à Pointe-Coux, qui voulait que la parole des résistants, que la parole des derniers acteurs, encore vivants, soit entendue par tous avant qu'elle ne soit réécrite et interprétée par les spécialistes de l'histoire. Merci à Maurice Casse, merci à Alain Nacre qui a permis cette rencontre et plus particulièrement à Marie-Josée Vittori-Auger. Je tenais à refermer cette émission sur les propos de notre résistant, Sylvain Diète, propos qui reflètent bien combien le sentiment de liberté est ancré chez ses anciens au point de vouloir le transmettre jusqu'à la fin de leur vie, comme l'a fait Maurice Casse.
Quand vous alliez dans les établissements scolaires pour témoigner, il y a un message que vous vouliez faire passer auprès des jeunes ?
Oui. C'est de toujours, toujours aimer la liberté. De toute façon, la liberté. Et ne jamais s'en départir. J'avais pas toujours raison, mais non, la liberté.
Cette émission sera rediffusée sur Radio Sainte-Afrique lundi 29 août à 19h et mercredi 31 août à 9h. Vous pouvez l'écouter sur votre poste, sur votre radio, votre autoradio ou directement sur le site de Radio Sainte-Afrique. Sur ce site, vous pourrez même la podcaster, la télécharger et vous y trouverez, en allant sur la page Dissonance, toutes les références des chansons entendues.
Les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, et la balle ou au couteau, tu évites. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous et la faim qui nous pousse à la misère. Il est des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il faut quand il passe.
Amis,
tombe un ami, sort de l'ombre à ta place.
Demain, du sang-loin séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons dans la nuit de liberté nous écoutent.
Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.
Thank you.